Je voudrais demander à Christophe Robert maintenant de bien vouloir regagner la tribune. Nous l'avons évoqué déjà, le logement, le toit, sa nature et sa qualité jouent un rôle déterminant sur la santé de ceux qui l'habitent et sur la manière dont ils peuvent ou non accéder aux soins. La Fondation Abbé Pierre travaille sur ces questions depuis fort longtemps. Il est donc très appréciable que son directeur, Christophe Robert, vienne partager avec nous à la fois son expérience, cette expérience et l'analyse qu'il peut en faire. Donc je vous remercie et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'étais déjà avec vous l'année dernière, pour ceux qui étaient présents à ces journées nationales. Ça avait été l'occasion d'aborder la question de la politique du logement, du mal-logement, de manière un peu globale, à la fois les conséquences pour les personnes, où est-ce que nous en étions. On m'a demandé aussi de faire un focus sur le logement d'abord. Donc, on était sur un registre beaucoup plus général et politique, hein, quand vous m'aviez demandé, c'était à Arras, je crois, de venir l'année dernière. Là, ce qui m'a été demandé, c'est peut-être plus partager avec vous ce que nous voyons, nous, de cette question du logement, de la santé, du mal-logement, de la santé, pour pouvoir peut-être avoir un petit temps d'échange. Je crois qu'il faut, on a trois petits quarts d'heure, 40 c'est minutes, donc je ne vais pas faire trop long pour qu'on puisse avoir aussi des échanges ensemble. Mais effectivement, moi, j'ai essayé de réfléchir aux situations de difficultés de santé que nous pouvons rencontrer dans nos actions au quotidien, dans les soutiens que nous apportons à des actions associatives ou nous directement, et puis peut-être commencer à discuter de pourquoi on en est là, de ces difficultés. Donc je ne reviendrai pas sur la politique du logement, on l'avait fait l'année dernière, et je vais vraiment me concentrer dans ce temps sur cette question logement et santé. C'est d'autant plus important que... Bon, la question du logement, c'est une question de politique publique, de construction, de rénovation, de personnes qui en sont exclues. Donc on est souvent dans un univers qui est extrêmement cloisonné. Et on voit à quel point, et je regrette que le ministre soit parti, parce que son gouvernement est directement concerné par ce que je vais dire, et il le sait, on a déjà parlé, on voit souvent le logement comme un problème technique, hein, des normes, du BBC, le nombre de constructions ici ou là... les moyens qu'on met pour faire du logement social, l'accessibilité, enjeu important. Mais on oublie souvent qu'en fait, le logement est à la base de bien d'autres choses. Le logement est déterminant sur la question de l'emploi, sur le développement économique, comme la possibilité. Nous rencontrons des gens qu'on aide qui sont à la rue, c'est très, qui bossent. Hein. Vous savez que 25% des personnes sans domicile ont un emploi. Pour rester propre au boulot le matin et pas se faire repérer comme étant SDF, c'est pas évident, évidemment, vous en doutez. Parce qu'on voit aussi que, par exemple, et ça c'est établi par la recherche, le surpeuplement dans le logement produit de l'échec scolaire. Hein, donc, bref, on voit beaucoup d'impact de mauvaises conditions de logement sur un ensemble de sujets qui n'ont rien à voir avec le logement, ou en tout cas duquel découlent ces difficultés de logement. Donc, tant qu'on ne voit pas cette question du logement en se disant « mais le problème du logement, c'est pas que un problème de logement », on n'arrivera pas à le remettre au centre des préoccupations de nous tous, et en particulier des pouvoirs publics, locaux, nationaux. Et c'est par exemple pas ce qui se passe. Hein. Je dis que je fais pas de politique du logement là, parce qu'on l'a fait l'année dernière, mais le budget du logement est le premier contributeur à la baisse de dépenses publiques de ce gouvernement depuis 3 ans. Ça sera encore vrai cette année. On va encore faire 1,3 milliard d'économies sur le logement. En 2020, globalement, en rythme de croisière, c'est 4,5 milliards en moins sur le budget du logement. Donc voilà, parce qu'on considère que les opérateurs auraient assez, on peut discuter de tout. Mais au fond, c'est parce qu'on ne considère pas le logement à sa juste place pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Ça, c'était l'introduction brève. Concernant la question du logement et de la santé... les conséquences sont très importantes. Le temps nous manque pour que je détaille, mais je vais essayer de brosser le portrait que nous voyons, nous, depuis une dizaine d'années sur ce sujet. On voit qu'il y a des millions de personnes, en fait, qui payent le prix fort de mauvaises conditions de logement et un impact très profond sur la santé. Le premier indicateur le plus inquiétant, c'est l'espérance de vie, par exemple, des personnes sans domicile fixe. C'est autour de 50 ans. Donc ça en dit long, c'est douloureux d'entendre cela, alors qu'on sait qu'il y a plutôt une augmentation importante du nombre de sans domicile. Entre les deux dernières enquêtes de l'INSEE, c'est une augmentation de 50% auquel on a assisté. Alors, on ne sait pas bien, hein, donc je vous dis 50 ans moyenne, ça c'est le collectif des morts de la rue qui essaye de redonner leur dignité à ces morts et fait des statistiques et qui dit c'est à peu près 50 ans. Il nous donne une autre statistique, il nous parle d'une à peu près 500 personnes qui meurent à la rue chaque année. Mais on sait, de par une étude épidémiologique, qu'on tournerait plutôt autour de 2000. On sait aussi que, si on reste sur la question des personnes sans domicile, que, en tout cas, une étude en Île-de-France a été menée il y a quelques années qui montre qu'à peu près un tiers des personnes à la rue sont victimes de troubles psychiatriques, psychiques. Donc là, il commence à y avoir un lien étroit, on aura l'occasion d'y revenir. On voit aussi, nous, dans les aides que l'on apporte, par exemple, dans les bidonvilles en France, je vous rappelle que les statistiques officielles nous indiquent qu'il y a aujourd'hui 16 000 personnes qui vivent en bidonville en France, eh bien, on voit une recrudescence de certaines épidémies, qu'on considérait plutôt comme proche de ce qu'on peut rencontrer dans des camps de réfugiés. On sait aussi que la mortalité néonatale est 8 fois supérieure à la moyenne du pays, que l'espérance de vie, alors, sans domicile, plutôt 50 ans, mais là, ce serait entre 50 et 60, ce n'est pas des études complètement stabilisé, c'est plutôt des études d'acteurs, médecins du monde, d'autres organisations, ou des études sur certains territoires, qui nous montrent qu'on a là des tensions très importantes, qui doivent quand même nous interpeller. Alors vous allez me dire, c'est 16 000 personnes en bidonville, vous allez me dire, c'est quelques milliers de personnes à la rue, mais enfin, quand même.
Combien de morts vous avez dit chaque année ?
C'est difficile. Le collectif des morts à la rue, on identifie en moyenne 500, 550 par an. Mais c'est uniquement ce qui leur remonte, si vous voulez, ce n'est pas une étude en tant que telle. Il y a eu par contre une étude sur 3 ans épidémiologique avec l'INSERM et d'autres qui montrait qu'on serait plutôt aux alentours de 2000. Toute la difficulté, c'est d'identifier qu'est-ce que ça veut dire de mourir à la rue. Est-ce que c'est vraiment être en bas de la cage d'escalier dans la rue ou bref, donc vous savez que la question des personnes sans domicile, c'est pas juste au sens où on l'imagine un peu dans l'imaginaire collectif, la question des clochards, c'est des personnes qui vont à un moment être à un abri, qui à un moment dans une voiture, qui à un moment chez des amis, puis qui vont replonger. Donc voilà, c'est mais entre 500 et 2000 si on voulait être tout à fait objectif. Là, on est sur les situations évidemment les plus dures, des formes exacerbées de mal logement, en quelque sorte. Mais il y a aussi d'autres liens entre le logement et la santé. Je pense à la question de l'habitat indigne, qui peut être à l'origine de troubles de santé assez importants. On voit souvent ce qui relève d'intoxication, le plomb, le monoxyde de carbone, le radon, des gens qui se chauffent en fait avec des chauffages d'appoint, c'est extrêmement dangereux, c'est aussi parfois source d'incendie. On le voit dans des squats, on le voit dans des logements qui sont fermés, et donc le chauffage ne fonctionne pas, mais ceux qui l'ont ouvert s'adaptent comme ils peuvent. On voit aussi des pathologies allergiques, respiratoires. J'aurai l'occasion aussi d'y revenir, mais aussi des conséquences d'ordre plus social ou psychique. C'est la question de la dégradation de l'image de soi, le rapport entre parents et enfants, la honte, le nombre de témoignages de pères que nous avons mal logés qui nous disent « j'ai honte des conditions que je donne à mes enfants en matière d'habitat, par exemple ». Et tout ça, mais je sais que vous le savez, n'est pas évidemment sans laisser des traces. L'insécurité, le repli sur soi, on le voit beaucoup, j'y reviendrai, avec la précarité énergétique, hein, le fait de ne pas pouvoir se chauffer ou chauffer qu'une toute petite partie de la maison, qui est un phénomène qui a tendance à se développer, alors aussi dans la représentation que s'en font les populations. Quand je dis l'isolement, c'est par exemple, dans les témoignages, on aide beaucoup de familles ou de personnes, on va dire, pauvres en milieu rural, qui vivent dans des vrais taudis, qui ne demandent rarement grand-chose, hein, qui sont très éloignés des services publics, de l'action sociale. On identifie plutôt ces personnes via les aides à domicile qui nous alertent, hein, ou des maires ruraux. Et on voit bien que des mauvaises conditions d'habitat produisent une honte qui fait qu'on se ferme, en quelque sorte. Les parents qui refusent des invitations de leurs enfants, parce qu'autrement, il faudrait la rendre. Mais si on la rend, ça veut dire qu'on va voir dans quel taudis on vit. Des choses de ce type-là, qui ne sont pas mesurables par la statistique, mais qui... de fait, en tout cas, dans les témoignages que nous on recueille, sont assez profondément marquantes. Et puis, des maladies plus, entre guillemets, emblématiques. Je pense au saturnisme, hein, le dépôt de plomb sur les nerfs, sur les os, qui peut être irréversible pour les enfants. Alors, fort heureusement, sur ce sujet-là, on a quand même pas mal évolué, positivement. Alors, certains disent oui, mais c'est notre unité de mesure qui a changé, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais enfin, j'ai pour habitude de faire confiance au pouvoir public, et en matière de mal logement, les chiffres sont plutôt pas bons, alors quand ils sont bons, je m'en réjouis. On a quand même réussi, par des dépistages importants et des interventions assez dynamiques pour limiter ou enlever les peintures au plomb, à pas résoudre le problème complètement. On parle de 5000 enfants aujourd'hui qui sont victimes de saturnisme, ça reste beaucoup, mais si vous voulez, c'est 20 fois moins qu'il y a 10 ans. C'est dans ce sens-là que je parlais d'évolution malgré tout positive, mais évidemment, pour tous ceux qui sont concernés, ça reste un problème majeur. Peut-être un problème qui est moins dramatique que ceux que... Je fais un peu la liste de ce que l'on voit pour que... donc c'est un peu assommant, mais... problème moins dramatique, mais plus répandu, c'est la question de la qualité de l'air intérieur. Dans les statistiques de l'INSEE, on est à peu près à 20% des ménages qui sont dans des logements qui présentent un problème d'air intérieur, alors avec une intensité et des conséquences qui sont de nature différente. Mais enfin, en termes de santé, on voit que des logements mal isolés, des logements trop humides ou trop isolés, hein, le mauvais réflexe des personnes qui ont froid dans leur logement, c'est de tout fermer, de calfeutrer pour pas qu'il y ait d'air, pour pas avoir froid, et en fait c'est ce qui provoque l'humidité, la circulation d'air étant indispensable. Et là on voit des prévalences d'asthme, de symptômes respiratoires divers et variés, notamment chez les enfants. Et puis la question de la précarité énergétique, qui est un sujet qui, sur lequel nous on travaille depuis longtemps, mais qui monte au sens négatif du terme. Alors je pense qu'il monte aussi parce qu'il y a une sensibilité différente de nos concitoyens à cette question. Hein, ce n'est pas seulement que ça s'est dégradé quantitativement, mais enfin, si on prend les statistiques de l'INSEE, les dernières disponibles, parce qu'on est très très en retard en France sur nos actualisations statistiques sur ces questions-là, la dernière enquête nationale logement qui permet de faire un travail sérieux, par exemple sur un sujet comme celui-ci, elle date de 2013, nous en sommes otages. Il n'est pas prévu d'en faire de nouvelles pour des raisons d'économie, c'est absolument insupportable, c'est comme ça. Enfin, je vous donne ces chiffres, on parle à peu près de 11 millions de personnes qui souffrent de précarité énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, soit leur logement est complètement mal isolé, c'est une passoire thermique, donc vous avez beau chauffer, mais ça chauffe pas, vous chauffez l'extérieur. Soit ce sont des personnes qui ont des ressources insuffisantes pour pouvoir se chauffer convenablement avec l'augmentation des coûts de l'énergie considérable auxquels on assiste depuis 6-7 ans. Soit les deux, soit la pauvreté. Bref, ça fait à peu près 12 millions de personnes quand même qui sont touchées par cette question de la précarité énergétique. D'autres facteurs, je vais encore en donner 5-6 et après on arrêtera la liste, mais qui permettent d'appréhender la diversité finalement des facettes de ces liens entre logement, santé, mal-logement et difficultés de santé. Ça peut être aussi l'instabilité résidentielle, avec des conséquences... Je vais prendre un exemple d'une étude qui est très très riche, qui a été faite par le SAMU social il y a quelques années, je crois il y a 2-3 ans, pour les familles qui vivent à l'hôtel. Vous savez que, faute de logements adaptés, disponibles, ou pour des personnes qui ont des droits dits incomplets, avec beaucoup de délicatesse, mais en fait, les gens sans papier, ou, vous avez une insécurité alimentaire qui est hallucinante, qui a été dévoilée il y a très peu de temps. On s'en doutait au dire d'acteurs, parce que les personnes, les travailleurs sociaux... Les associations qui vont dans ces hôtels le voient. Il n'y a pas grand monde qui va déjà dans ces hôtels. Il n'y a pas vraiment d'accompagnement, malgré leur nombre important de familles concernées. Et en fait, il y a une étude un peu sérieuse de l'Observatoire du SAMU social qui montre qu'on est à peu près 8 familles sur 10 qui souffrent d'insécurité alimentaire et même 10% d'une insécurité alimentaire sévère, c'est-à-dire qui peut avoir des conséquences très importantes sur la santé. Donc là, on est complètement dans le cas de figure où notre incapacité collective, je ne montre personne du doigt, mais bien collective, à apporter des réponses en logement satisfaisantes et la manière dont on se défausse, en payant cher par exemple des nuitées d'hôtel, peut avoir des conséquences, bien sûr, sur les parcours résidentiels, sur la stabilité en matière d'habitat, mais aussi sur la santé. Et ça recoupe des situations que nous voyons avec un autre amortisseur de crise du logement que vous devez rencontrer, je le sais, c'est la question de l'hébergement chez des tiers comme amortisseur à la crise du logement. des gens qui ne trouvent pas de solution de logement dans le parc locatif privé, dans l'accession à la propriété, ou parce que leur demande de logement social n'a pas encore abouti ou n'aboutira pas, et on va accueillir un proche, un cousin, un voisin, parce qu'il s'est fait expulser, parce qu'il s'est séparé de sa conjointe, parce qu'une femme est victime de violence conjugale, toutes les situations de fragilité, de rupture que l'on peut connaître. Et c'est marrant parce que... C'est curieux parce que ce que a dévoilé l'étude sur les hôtels là, du SAMU social, on avait vu la même chose sur l'insécurité alimentaire. Le fait d'être hébergé chez des tiers, quand ça dure, et souvent ça dure, vous finissez par ne plus manger chez la personne pour ne pas la déranger, par exemple. Et donc, on mange mal, on mange souvent cher, parce qu'on doit grignoter des choses qui peuvent se faire rapidement dans la rue. Donc, on a des problématiques de ce type. On voit aussi quand on... À partir des budgets des personnes que l'on aide à la Fondation Abbé Pierre ou le réseau associatif avec lequel on travaille, que les taux d'effort trop élevés, donc les dépenses trop importantes pour le logement, loyer, charges, etc., peuvent avoir des conséquences très importantes sur la privation de soins. Dans les arbitrages des ménages, quand on est très 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 fragile, pauvre, précaire, on a bien conscience que le risque de perdre son logement est là. Et que donc, favoriser le paiement du loyer et des charges peut se fait pour certains, et assez souvent malheureusement, au détriment des dépenses de santé. Donc dégradation importante. Donc là, on voit aussi que le coût du logement peut aussi avoir des conséquences sur la santé de nos concitoyens. D'autres situations qui, elles, on voit que là, c'est le logement qui peut produire des effets négatifs sur la santé des personnes fragiles. Parfois, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire nos difficultés de santé nous rendent difficile notre accès ou notre maintien dans le logement. Je ne vais pas trop m'étaler, mais c'est la question du handicap, évidemment, qui est très importante, de la perte d'autonomie. Pas facile de trouver chaussures à son pied. Alors, quand on a un réseau, une famille soutenante, comme pour beaucoup de difficultés sociales, c'est très différent. Mais pour beaucoup, isolés, seuls, précaires, sans amis, etc., ces difficultés-là peuvent vraiment créer des difficultés d'accès au logement. C'est vrai aussi de la maladie, avec des phénomènes de discrimination, que vous connaissez bien également. Mais on peut aller même plus loin. Nous, on a recueilli des témoignages de personnes... qui ont rencontré des difficultés même dans l'accession à la propriété, après une longue maladie, pour obtenir le prêt via ce qui est demandé à partir d'un certain âge, je ne vous dirai pas lequel, parce que ce n'est pas très vieux, vis-à-vis des banques et des garanties qui sont demandées. Et ce n'est pas des blagues, c'est des choses qui peuvent... alors encore une fois, si vous avez des amis, des gens qui peuvent vous prêter, tout ça c'est génial, il n'y a pas de problème, mais je parle bien des personnes souvent seules pour qui ça peut être difficile. Alors... d'une manière maintenant plus analytique, parce que je pourrais multiplier les situations qui montrent que le mal logement peut produire des effets négatifs sur la santé des familles et des enfants. Derrière, il y a des enfants, je ne fais pas la distinction, mais les enfants, ils sont rarement en suspens, à part les mineurs isolés, non accompagnés, mais ils sont dans des familles. C'est tout le débat qu'on a sur la stratégie pauvreté avec le gouvernement qui nous dit « je veux m'occuper des pauvres ». On lui dit « mais les enfants pauvres, ils sont dans des familles ». Donc, pourquoi vous voulez vous occuper des enfants pauvres? Oui, parce qu'on ne veut pas la reproduction des inégalités. Bon, très bien, on est plutôt pour, mais ils sont quand même dans des familles. Donc, c'est ce qu'on essaie de dire, nous, tout au long de nos travaux. Il faut faire attention à cette grille de lecture. Quoi qu'il en soit, il y a le problème majeur, mais vous le connaissez très bien, mais je le dis quand même, c'est des univers qui sont complètement hermétiques. Celui de la santé, celui du logement, dans la mise en œuvre concrète des actions ou des réponses apporter aux personnes. C'est le principal problème. Et alors, on le voit bien pour les personnes à la rue. On le voit, par exemple, les enquêtes qu'on a menées avec Emmaüs Solidarité, d'autres associations d'hébergement sur les soins dentaires. Vous avez, par exemple, une statistique, 7% des personnes sans domicile ne sont jamais allées chez un dentiste. Parmi celles qui souffrent d'une déficience visuelle handicapante, 94% ne sont pas équipés, enfin d'équipements adaptés. Donc là, on est dans la logique de la survie. Les hébergeurs, c'est leur rôle d'héberger, mais ils se préoccupent sans doute pas assez ou ils n'ont pas les moyens de le faire des conditions de, enfin, de la santé des personnes qu'ils accueillent. Ils sont aussi un peu les derniers remparts de la République, comme le sont les travailleurs sociaux, à bien des égards. On voit aussi que, par exemple, être à la rue, c'est très compliqué pour arriver à prendre régulièrement les traitements. Hein. C'est vraiment très, très difficile, y compris la conservation quand il y a besoin de froid. Et donc, on a ces difficultés-là. On le voit aussi dans la continuité de la prise en charge, quand il y a un moment, un sujet de santé qui se pose, la sortie d'hôpital pour les personnes très précaires. Et ça met en difficulté tout le corps médical, parce que les personnes, vous allez aller où, là ? Dans la rue. Ah non, mais c'est pas possible, madame, c'est pas possible, monsieur. Vous venez d'accoucher, on vient de vous soigner, vous avez besoin d'une période de convalescence, oui, mais enfin, moi, je sais pas où aller. Alors nous, on a, par exemple, à la Fondation, des services de santé qui nous appellent, en disant, vous pouvez pas faire quelque chose, voilà. Donc, du coup, souvent, vous avez des maternités qui continuent à garder les personnes qui viennent d'accoucher dans leur service, mais c'est pas fait pour ça, mais en même temps, ils savent pas. Donc, au bout d'un moment, on finit par donner quelques nuitées d'hôtel, qui est une forme de défausse collective, hein, parce que c'est pas moi qui ai mis à la rue. Je ne critique personne, je vous fais l'état des lieux et vous montrer à quel point la question de l'articulation entre ces univers, il y a encore du boulot, mais on a beaucoup d'appels, y compris de directrices de maternité, de directrices de santé, qui nous disent, mais nous, on ne sait pas du tout comment faire, quoi. Et voilà, donc, mais vous avez dû voir, parce que ça monte depuis 3 ans, les services aussi d'urgence, bon, les difficultés montent depuis longtemps, mais sur cette question de personnes à la rue, ils savent très bien qu'en fait, c'est derrière la rue qui est la seule solution pour les personnes. Là où il y a un énorme aussi enjeu autour du cloisonnement ou du décloisonnement, plutôt, c'est la question de la psychiatrie et du mal logement. Mais ça, vous connaissez ça très très bien. C'est toute l'histoire de la désinstitutionnalisation, de la fermeture des hôpitaux et des lits psychiatriques. Vous connaissez bien cette histoire des années 60-70, qui est plutôt positive dans sa démarche, hein, qui consiste à dire, les personnes qui ont des troubles peuvent vivre en collectivité, une forme ou une autre. Voilà, sauf que l'alternative avec la montée en charge de cette sectorisation, l'alternative hors de l'hôpital est complètement insuffisante. Donc les espaces adaptés pour accueillir les personnes en situation de fragilité liées au logement avec des problèmes de santé psychique, psychiatrique, c'est le gros problème d'aujourd'hui. Donc là, il y a un sujet majeur, certains disant même le secteur de l'hébergement est devenu les nouveaux hôpitaux psychiatriques d'antan. Hein. Et c'est pas faux, quelque part, parce que, vous savez, ce secteur de l'hébergement, et là, je parle pas seulement des personnes à la rue, hein, l'hébergement d'urgence, c'est plus de 100 000 lits. Hein, on est à peu près, même si on prend une lecture un peu élargie, c'est 220 000 en France entière. Et ce secteur, si vous voulez, il est celui qui doit, mais personne ne le dit comme ça, pallier les déficiences de toutes les politiques. On le voit avec l'aide sociale à l'enfance, les sortants de l'aide sociale à l'enfance. On le voit avec les sortants d'hôpitaux psychiatriques, je viens de le dire. On le voit avec les sortants de prison. Et donc, au bout d'un moment, ce secteur qui n'est pas du tout spécialisé, pas du tout formé, pas du tout adapté, et même les gens que nous, on a à la Fondation Abbé Pierre dans nos lieux d'accueil pour les personnes à la rue, j'étais vendredi dernier dans un accueil de jour avec que des personnes à la rue, presque la moitié des personnes, ça souffrait de problèmes psychiques. Et donc, ça veut dire de la violence, ça veut dire des comportements difficiles, ça veut dire... Bref. Et donc, il y a là un enjeu majeur de santé publique, de questions sociales, plus largement, qui nous est posé. Mais je sais que vous connaissez ce sujet-là, donc je m'y attarde pas, mais je crois que c'est extrêmement important de pouvoir prendre la mesure des difficultés sur ce front-là. Je suis bavard, je vais essayer d'aller plus vite. Mais c'est moi qui dois partir.
Mais oui.
c'est gentil. Non, mais vous, si vous voulez, ce décloisonnement, il est, j'allais dire, structurel. Ce cloisonnement, pardon, il est structurel. Et on parle aussi de secteurs qui sont débordés. C'est-à-dire, je parlais de la prison, je parlais de l'hôpital psychiatrique, je parlais du secteur de l'hébergement. Donc demander à ces acteurs de faire davantage la connexion, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Eux-mêmes, pour exercer leur mission première, sont débordés, sont en crise, s'il fallait employer un terme un peu rapide. Et donc, bon, néanmoins, nous on soutient et on a essayé de repérer un certain nombre d'actions qui nous paraissent aller dans le sens, et je voudrais essayer de peut-être en tirer, avec le peu de temps que nous avons, ce qui fonde leur spécificité, leur efficacité, ou en tout cas leur intérêt pour répondre aux besoins en logement en lien avec ces questions de santé. On voit que face à ce virage ambulatoire dont je parlais de la psychiatrie, on voit émerger des dispositifs alors assez locaux, médicaux, sociaux, spécifiques, appartements thérapeutiques, appartements associatifs, avec des niveaux de bas seuil qui permettent à des personnes, par exemple, en très 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 grande précarité psychique, difficulté psychique, malgré tout de trouver une forme d'hébergement qui ne vient pas perturber les systèmes classiques qui ne peuvent pas intégrer les populations qui souffrent de tels maux. Avec des soins individuels, des soins thérapeutiques, donc une logique qui mêle à la fois l'hébergement et le soin thérapeutique. Bon, ce que nous avons analysé, et on les a mis dans un chapitre de notre rapport hein, de la Fondation que vous pouvez trouver sur notre site, donc je ne m'y attarde pas, mais c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire c'est vers là-dessus, vers cette direction qu'il faut prendre, et en même temps, en termes quantitatifs, on en est très loin. Il y a aussi toute la logique, j'en avais un petit peu parlé pour ceux qui étaient l'année dernière à Douai, à Arras. C'est pareil. Non. C'était la question du logement d'abord et un chez-soi d'abord, hein, qui mêle cette dimension traitement santé et logement. En bref, on inverse toute la logique de ce que je viens de dénoncer comme conséquence négative pour les familles. On dit que le logement n'est pas la récompense parce que tu t'es bien soigné, parce que tu as été bien sympa, parce que tu as trouvé un bon boulot, parce que tu as trouvé tes papiers administratifs, mais que le logement est le levier pour se reconstruire, pour se reposer, pour repartir du bon pied, pour... voilà. Et pour être très franc, les actions qu'on finance depuis longtemps à la Fondation, qui sont dans une logique pas d'hébergement, mais de logement durable, je pense aux pensions de famille, où c'est des espaces un peu partagés collectifs, mais les personnes sont chez elles, tant qu'elles veulent. Elles ont un bail de droit commun. Eh bien déjà, vous leur permettez de rentrer dans ce logement si le logement leur plaît. Et vous leur dites, t'es chez toi, tu partiras quand tu voudras. Tu payes un peu aussi, etc. Mais tu partiras quand tu voudras, alors que le parcours, ça a été, on m'a filé 3 nuits ici, 1 mois là, 6 mois là, etc. Vous avez déjà contribué à reconstruire la personne. Vous avez déjà redonné les conditions. Donc l'idée qui consiste à dire, plutôt que la récompense, le logement devient le levier pour plein de choses, réinsertion, santé, etc. Et sur la santé, c'est encore plus évident. Et toutes les expérimentations qui sont maintenant en développement, et le ministre a annoncé la semaine dernière un élargissement des territoires concernés par cette formule « un chez soi d'abord », vont dans ce sens-là et montrent que, par exemple, contrairement à une idée reçue, vous, moi, on ne peut pas présager de la capacité à habiter des gens. Hein ? Nous, on se fait une idée de se dire « Mais non, mais ces gens-là, il faudrait d'abord qu'ils passent par ceci, qu'ils passent par cela pour se loger. Parce que, quand même, ben, c'est pas vrai. Les retours que nous avons sur ces expérimentations, où là, les soins sont complètement intégrés au logement autonome, montrent que la capacité à habiter n'est pas liée à ces difficultés psychiques et qu'au contraire, elles peuvent produire des effets inverses positifs. Alors, évidemment, il faut... démultiplier ce type d'action, de bonnes réponses. D'autres bonnes réponses, c'est la logique d'aller vers les personnes. Vous connaissez bien cette logique, hein, d'aller vers celles qui sont en souffrance, d'aller vers celles qui sont en difficulté. On voit par exemple, on a pu en soutenir, mais d'autres en développent par ailleurs, des équipes mobiles psychiatrie précarité qui interviennent sur ces deux dimensions-là pour les personnes qui sont à la rue. Ou les personnes qui sont dans des squats, qui sont dans des campings à l'année, qui sont dans des conditions de mal logement assez importantes. Ça peut aussi être des logiques de visite à domicile, ce que je disais tout à l'heure, pour le repérage, tout de suite, rapidement s'apercevoir que, par exemple, ben, pour les enfants, il y a des problèmes de santé majeurs. C'est pas évident pour les gens. Hein. C'est-à-dire que on a découvert beaucoup de situations, nous, où finalement, on est allé mener, parce qu'on avait été alerté, des visites. Et une famille a un gamin qui a de l'asthme chronique depuis 7 ans. C'était uniquement parce que son logement était humide et mal ventilé. Il sort de là, il n'a plus d'asthme. Vous dites, mais quel dommage, mais quel dommage. Donc, la question du repérage, la question de l'aller vers. Il faut vraiment qu'on se laisse un petit peu de temps pour les questions. Je vais conclure en disant...
Il nous reste 10 minutes, c'est ça?
Faut que je sois 15 heures devant, ouais, c'est ça.
D'accord, ouais, c'est bon. Ouais.
Merci, vous êtes vraiment très patient, c'est très agréable. Oh, je pense que, pour conclure, il y a quand même deux axes. Vous l'aurez compris, même si c'est vite dit, parce qu'on a un temps limité, mais la rencontre entre ces secteurs qui sont cloisonnés, elle est fondamentale. Elle est essentielle. Je sais que c'est très difficile, c'est pour ça que j'ai parlé de secteurs en crise aussi. Mais quand même, c'est vers ça qu'il faut aller. Après, il y a des enjeux qui relèvent de la politique du logement. Je vais en prendre qu'un. Quand nous, on voyait les conséquences sur les enfants, mais pas seulement, de la précarité énergétique forte, hein, pour des gens qui vraiment sont en grosse précarité énergétique, il n'y avait aucune étude française sur l'impact sur la santé. Donc on a fini par la faire. On en a fait une il y a 6 ans, où on a, avec des chercheurs, un laboratoire de Montpellier, mené un suivi de 2 cohortes à peu près similaires en termes de conditions sociales, économiques, de logement, mais une en précarité énergétique, l'autre pas. Mais les chiffres sont catastrophiques sur, je le disais, les bronchites, les maladies chroniques, sur l'isolement, sur les angines, sur l'asthme, etc., etc. Donc, il y a aussi, au-delà du décloisonnement des acteurs de la santé et du logement et de l'hébergement, il y a la nécessité d'une intervention forte en matière de logement, et notamment la lutte contre la précarité énergétique et donc la rénovation thermique aussi des logements. C'est fondamental. Fondamental pour que nos actions associatives ou institutionnelles à destination des personnes qui ont besoin d'être aidées par la politique publique soient uniquement réservées à ceux qui sont passés à travers les mailles du filet, mais pas dans des volumes de 12 millions de personnes qui souffrent de précarité énergétique. C'est impossible. Donc ça veut dire que il nous faut des politiques qui soient davantage centrées sur la réponse quantitative à ces problématiques. Par exemple, je pourrais en prendre 100, la rénovation thermique des logements, urgence pour la planète, urgence pour le portefeuille des ménages parce que vous faites baisser la facture, et urgence pour les questions de santé. Et après, nos institutions sociales, dans leur ensemble, politiques publiques, associatives, vont venir, en décloisonnant aussi leurs approches, pouvoir apporter l'aide à ceux qui sont passés à travers ces mailles du filet. Je crois que c'est vraiment dans cette logique-là que nous, les travaux que l'on mène aujourd'hui, nous conduisent à mettre les priorités. Et je me tais. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'imagine que vous seriez nombreux à aimer réagir, questionner, prolonger peut-être, témoigner peut-être également. Moi, je suis très sensible à plusieurs dimensions de votre propos. D'abord, j'apprécie cette manière que vous avez de nous ouvrir à une approche complexe des choses en reliant des éléments que nous ne relions pas forcément spontanément et qui pourtant le sont. Donc je trouve que vous nous aidez à penser en procédant comme ça. Puis, je suis très sensible également à cette autre dimension, la manière dont vous avez évoqué avec un brin d'insistance, mais c'est important, tout ce processus de désinstitutionnalisation, une formidable idée, si mal mise en œuvre qu'elle devient catastrophe. Et je suis personnellement très inquiet quand j'observe la transformation des secteurs professionnels du handicap, des handicaps. Je suis très inquiet de ce que produira le même mouvement de désinstitutionnalisation actuel. Exemple, dimanche dernier, il y a 8 jours, à Toulon, devant la gare de Toulon, j'ai fait la connaissance d'un monsieur en fauteuil roulant à la rue. Voilà. Personnellement, en fauteuil roulant à la rue, moi, je n'en avais jamais vu. Ça y est, il y en a. Et vous en connaissez. Mais et là, vraiment, il va falloir que les secteurs professionnels se parlent, se rencontrent. Il faut décloisonner, il faut... Enfin, c'est ce que vous disiez, mais... Voilà, je me permets cette réaction parce que je la trouve... Ah oui, oui.
Bonjour. Très sensible à ce que vous avez raconté. Là où on écueille dans la MJA-GBF, c'est quand nous arrivent des situations avec... on est là au mois d'octobre, on va en avoir plusieurs, hein, puisque la trêve hivernale va arriver. Et quand on travaille de façon institutionnelle avec le département en expliquant la problématique du logement, et quand on nous dit, ben oui, mais ils n'ont pas payé, enfin, c'est des mauvais, comme vous disiez tout à l'heure, ils n'ont pas été très bons, donc il faut qu'ils aillent au fond pour ensuite rebondir. Et là, c'est catastrophique pour les familles, mais aussi pour les professionnels qui les accompagnent, parce qu'on se sent impuissant. Et c'est ça qui est compliqué à faire changer comme regard. Et on leur explique mathématiquement que ça ne coûte pas forcément plus cher et que ça va vraiment aider les familles. Mais notre discours, il ne passe pas du tout. Ils font trop de bruit, ils ne payent pas. Quand il y a 2 ans d'impayé de loyer, ne me dites pas qu'on ne peut pas intervenir avant quand même. Et la MGA-GBF vient juste à cet endroit-là, et en plus on nous dit, alors qu'est-ce que vous avez fait ?
Je crois que c'est la cause d'expulsion. Vous savez, il y a à peu près 15 000 expulsions de ménages par an. Enfin, c'est un nouveau record l'année dernière, 15 000 ménages, c'est à peu près 30-35 000 personnes, avec le concours de la force publique. Donc c'est quand on est vraiment au bout du processus. Eh bien, il y a aussi des expulsions dans le parc social, hein, le parc public HLM. Et...
Bien sûr.
Apparemment.
Oui.
Donc, très bien, vous êtes au courant qu'il y a des. 30%, c'est pour des questions de troubles de voisinage, etc., qui sont souvent liées à la question psychiatrique. Donc, il y a quelques associations qui travaillent sur le sujet et qui vont en fait accompagner les personnes dans leur logement. Ça change tout. Ça change tout.
Allez, l'heure a tourné. Vraiment, merci. Merci de cet apport. Désolé d'interrompre, mais les rendez-vous suivants exigent que vous nous quittiez maintenant. Vraiment, merci.
Merci à vous. Merci.